Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Nous retrouvons Jean Viratel, spécialiste des chemins de fer. Voilà l'histoire de train. Le train qui fait partie de notre enfance, de notre vie. On voit toujours des trains, il y en a toujours, il y en a qui disparaissent, il y a des voies qui sont arrêtées et que l'on parle de rétablir et qu'on espère voir rétabli. Et là, nous parlions avec Jean Viratel, de l'historique, en fait, du développement surtout des chemins de fer. Quelle était la densité du réseau au plus fort de la...
Alors, au maximum, le kilométrage de voies ferrées sur le sol français a atteint environ 60 000 km. Il faut compter 40 000 km de lignes, disons, à voie normale, le grand réseau, et environ 20 000 km de lignes locales, à voie étroite, de quelques dizaines de kilomètres de longueur, plus des tramways aussi.
Oui. Oui. Alors quand vous parlez de ça, je sais qu'à Fonsegrive, je ne sais pas si elle existe, mais il y a des photos de cette gare. Je pense que c'était la ligne qui allait jusqu'à Revel, au moins jusqu'à Revel.
Tout à fait, oui. C'est une ligne qui partait du port Saint-Sauveur à Toulouse, qui passait par l'avenue Saint-Exupéry et qui allait jusqu'à Revel. Oui. Moi, la seule gare que j'ai connue, elle était à Montaudran, à l'endroit où se trouve le garage Renault maintenant.
Elle a été démolie.
Oui.
Voilà. Ah, alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on donnait des noms aux trains et parfois aux locomotives.
Oui. C'est
pourquoi on voulait personnaliser, c'était pour rassurer les voyageurs ou...
Alors, il y avait deux raisons. Les trains, il y avait quand même une raison commerciale. Hein. Un train qui a un joli nom,
oui,
c'est prestigieux,
attractif.
C'est attractif. Alors, il y a eu... l'Orient Express, et puis le train bleu qui comportait que des wagons-lits, des wagons luxueux qui descendaient vers la Côte d'Azur. Et puis après, on a créé le Mistral qui partait de Paris vers la Côte d'Azur aussi, et le Capitole, bien connu à Toulouse, qu'on a bien connu. Donc il y avait pas mal de trains qui recevaient un nom à titre commercial.
Oui.
Bon, les locomotives, alors, elles avaient une dénomination... lié au nombre d'essieux de la locomotive. Par exemple, une locomotive avec deux essieux, trois grands et un petit, 231, c'était une Pacifique.
Ah !
Voilà, et chaque type de locomotive, suivant ses essieux, avait en plus un nom. La 141, c'était une Mikado, parce que la première locomotive comme ça a été livrée au chemin de fer de l'empereur du Japon.
Et Pacifique, c'est un rapport avec les États, l'Amérique ?
Peut-être.
Bon, alors, vous avez parlé des gares, et c'est vrai qu'il y a peut-être effectivement des métiers, ce que vous disiez hier, qui ont disparu, mais il y a des constructions qui ont été faites, il y a eu du travail, des gares, des ponts, des tunnels.
Ah oui, bien sûr, oui. Les gares, elles ont été... très soignés dans les grandes villes, les gares terminales, en faisant appel à de grands architectes. Par contre, chaque réseau avait un type de gare standard pour, suivant l'importance de la population de la ville desservie. Donc il y a des gares style sud-est, style nord, etc.
Quelles sont les gares que vous trouvez belles ?
Ah, les gares que je trouve
à dire
belles.
À nos auditeurs, ils peuvent les visiter.
La gare Matabiau, elle est pas mal.
Elle est pas mal.
Vu du canal, quand même.
Oui,
elle est pas mal.
Oui.
Sinon, les gares parisiennes, évidemment, sont très belles.
Il n'y a pas une gare qui est maintenant, qui n'est plus utilisée du côté de l'Espagne ?
Ah oui, alors ça, c'est la gare de Canfranc.
Oui.
Qui permettait une liaison au milieu des Pyrénées entre la France et l'Espagne. Ça aboutissait à Pau, en France. Et à Canfranc, donc en territoire espagnol, juste après le tunnel, l'Espagne, à l'époque, a voulu marquer son importance, etc., en construisant une gare gigantesque. avec hôtels, restaurants de luxe, avec des tas de choses, bon, plus des douanes, bien sûr, à l'époque. Et donc, cette gare, elle existe toujours. Alors, en ce moment, il y a des travaux gigantesques pour en faire un hôtel de luxe. Mais le bâtiment existe toujours.
Sinon, c'est à voir, c'était abandonné. Ça n'a jamais... Ça a fonctionné à un moment
donné. Ah, ça a fonctionné, oui, bien sûr. Ah oui, ça a fonctionné assez longtemps, même.
Oui. Bon, alors des ponts, évidemment, là, des ouvrages d'art, oui. Il y a des choses magnifiques aussi.
Alors, en particulier, bah, ce qu'on appelle des viaducs, c'est-à-dire les plus grands ponts. Oui. Je pourrais en citer trois qui sont en voie d'être classés au patrimoine mondial, quand même, hein, qui se situent dans le Massif central. Alors, le viaduc de Garabi, qui est sans doute le plus connu, puisque c'est une œuvre de Gustave Eiffel.
Oui.
On a le viaduc des Fades, moins connu parce qu'il est peut-être moins joli, il est très simple de construction, mais c'est le plus haut de France. Et puis, pas très loin de Toulouse, le viaduc du Vior, sur la ligne d'Albi à Rodez, qui a fêté ses 120 ans à l'automne dernier.
Et il est particulièrement beau.
Ah oui, ah oui. Il a une architecture vraiment remarquable.
Et il va être classé.
Oui, il va être classé au patrimoine mondial. Ouais, ouais. C'est des ouvrages d'art extraordinaires.
D'accord. Alors, pour les tunnels, ça a dû être plus compliqué encore.
Alors, les tunnels, bah, on savait déjà en creuser pour les canaux. Hein. Riquet avait creusé un tunnel près de Béziers.
Oui,
hein. Donc, les petits tunnels, ça allait. Quand il a fallu s'attaquer aux Alpes, par exemple, c'était plus compliqué.
Oui.
Le plus premier grand tunnel fait dans les Alpes, c'est le tunnel du Mont-Cenis qui relie la France à l'Italie. Donc, alors, on a mis au point des perforatrices pneumatiques pour faire des trous, pour mettre la dynamite dedans. Mais la difficulté, elle est surtout d'ordre géologique. Quand les matériaux ne sont pas homogènes, qu'il y a des venues d'eau, c'est ça la difficulté.
C'est...
Par contre, le tunnel sous la Manche, c'était d'une facilité incroyable, parce que c'est que de la craie.
Il suffisait de creuser
D'ailleurs, un tunnel prototype avait été creusé dans les années 30 sur 500 mètres environ pour voir si c'était possible. Et puis, il n'y a pas eu de suite à l'époque.
À peu près au même endroit. Enfin,
À peu près, oui.
Oui, d'accord. Oui. D'accord. Donc, de ce fait, tous ces ouvrages d'art, tous ces trains, tout ce réseau, c'est entré dans notre paysage. Nous, ça nous paraît normal d'avoir
tout
ça.
Tout à fait, oui.
Quand même, ça a rapproché énormément les populations, le transit commercial.
Alors, c'est vrai que ça a rapproché les populations. Ça, bon, déjà, ça a permis de faire des trains internationaux à grande distance, hein, l'Orient Express. À l'intérieur du pays, bah, on pouvait se déplacer facilement, aller sur la Côte d'Azur dans la journée, des choses comme ça. Et puis, localement, le petit train, il permettait aux paysans d'aller au marché, plus loin, vendre ses produits.
Mais oui, Fonsegrive à Toulouse, c'est facile, plus facile.
Oui.
D'accord.
Donc, c'était très intéressant pour les campagnes. Mais, par contre... ça a fait connaître la ville à des paysans et
l'exode.
L'exode rural a été un peu facilité par le
transport. Certainement. Ouais. Ouais. Alors, évidemment, il y a eu d'autres moyens, on en parlera la semaine prochaine, mais on peut déjà en dire un mot. D'autres moyens, c'était donc les locomotives à vapeur, mais il y a eu l'électrification, le diesel, le turbo. Mm-hmm. Tout ça ne s'est pas fait en même temps.
Pas du tout en même temps. Ça a été très progressif, suivant les situations. Alors là, la locomotive à vapeur a régné en maître tout le 19e siècle, tout le début du 20e siècle.
Ah oui.
Et après, progressivement, a disparu petit à petit. Du moins en France, c'était très, très progressif. Les dernières machines en exploitation, disons, commerciale, sont arrêtées en 1975.
C'est pas si vieux que ça.
Ouais. Alors l'électricité a été testée, commencée à être utilisée dès le début du XXe siècle. C'était un moyen très, très performant au point de vue rendement, au point de vue facilité d'utilisation. Et bien sûr, il fallait investir gros, des centrales électriques, des lignes électriques.
Des lignes, voilà. Oui, c'est ça.
Voilà. Alors, pour comparer, le record du monde de vitesse en train à vapeur, c'est 202 km/h en Angleterre. Mais
ah oui, on était loin des 35 km/h.
Hein. Ah oui, oui, il y avait des progrès en tant que temps.
Des progrès.
Et puis en électrique, dès le début du 20e, en Allemagne, ils ont fait des essais jusqu'à 200 km/h avec une automotrice. Mais c'était vraiment des essais. Quoi.
Et quand vous m'avez parlé du turbo, qu'est-ce que c'est le turbo ?
Alors le turbo, oh là, c'est venu bien après. Et puis bon, c'est un peu
c'est quel
anecdotique.
Rapidement, parce que...
Alors rapidement, le turbo, c'était à l'époque du pétrole pas cher. Des hélicoptères, des avions réaction, on s'était aperçu que c'était plus intéressant d'équiper des trains, disons, avec une turbine d'hélicoptère, tout simplement, au lieu d'un moteur diesel. C'est plus léger, c'est plus puissant. Bon, malheureusement, ça consomme énormément, donc au bout de 30 ans, on a arrêté ça complètement. Le premier TGV prototype était à turbine, n'était pas électrique,
d'accord,
tellement le pétrole n'était pas cher.
Oui. Oui. Avec tout ça, je me dis, on parlait des horaires SNCF. Mmh. On disait vraiment, il n'y a aucun problème. Au Japon, d'ailleurs, s'il y a 5 minutes de retard, les haut-parleurs s'excusent auprès des voyageurs. Mmh. Maintenant, apparemment, ce n'est plus tout à fait ça. Hein. C'est moins respecté, disons.
C'est pas une question de respect, c'est moins on n'y arrive pas, quoi.
Oui.
C'est
oui,
plutôt
oui.
ça.
Avec un réseau très dense, probablement, mais je pense qu'au Japon aussi, non. Allez,
oui.
On va pas entrer dans les détails. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler, là, merci. On va parler de l'évolution technique, et puis on va parler des cheminots aussi.
Ah oui.
Merci Jean Viratel, à la semaine prochaine.
Merci, ne déraillez pas.